Bonsoir, Al-Majid Chiri, bonsoir. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour le numéro 2 de cette saison 98-99 de Chronique algérienne. La semaine dernière, à partir de 22h45, qui est notre nouvel horaire, nous avons donc fait une nouvelle présentation de notre émission. Nous avons fait avec Abdelmajid Chiri une introduction à cette série que nous entamons. Et aujourd'hui, pour ce numéro 2, pour cette deuxième émission de la saison, nous allons aborder un sujet qui nous ramènerait à produire une nouvelle réflexion sur la colonisation, sur le système colonial, sur ces 132 ans, la manière dont les choses se sont instituées, la manière dont les choses se sont mythifiées, mystifiées, la manière dont les choses ont été installées par la puissance coloniale. Alors nous allons peut-être, Abdelmajid Chiri, revenir à ce fameux 1830, fameux pour certains, désastreux pour d'autres. C'est ça l'histoire. Alors, comment cet ensemble s'est installé petit à petit, s'est mis en place? C'est de cela qu'il sera question avec vous aujourd'hui, Abdelmajid Chiri.
Bonsoir. Et donc, comme vous venez de le dire, notre introduction de la semaine dernière nous avait permis d'ouvrir un peu le champ de notre réflexion et nous nous étions proposés d'aborder des thèmes qui, peut-être sans être en relation directe avec le titre de ces chroniques, puisque ces chroniques, si vous vous rappelez bien, porter le titre de Les hommes, les événements et les idées qui ont fait l'Algérie. Il y a également des hommes, des événements et des idées qui, sans avoir contribué à faire l'Algérie, ont eu une influence disons, dans le contexte algérien et qui ont appelé des réactions. Et donc, qui ont suscité peut-être d'autres réflexions, d'autres événements, qui ont amené d'autres hommes à agir pour que les choses évoluent dans un certain sens ou changent totalement. C'est pour cela que nous allons être amenés à réfléchir un peu sur le phénomène colonial. Comme chacun sait, la colonisation au sens moderne du terme, si l'on veut, c'est-à-dire s'accaparer les richesses d'autrui, c'est une tendance qui a existé dans pas mal de pays européens, mais elle était purement lucrative, purement économique. Le fait de transformer cette situation en une situation doctrinal, donc asseoir toute une réflexion, avoir toute une production intellectuelle pour pouvoir apporter disons, expliquer, pour pouvoir convaincre et également absoudre par la suite certains actes. En ce sens que l'on a présenté le phénomène colonial comme étant un phénomène civilisationnel et donc apportant un certain bien-être. Bon, dans ce contexte-là, il fallait effectivement donner aux acteurs qui se sont succédés sur cette terre pendant 132 ans, il fallait leur donner des fils conducteurs, donc une réflexion qui, au fil des années, s'est approfondie, s'est élaborée, et qui en a fait une véritable doctrine coloniale. Alors, si, par exemple, en ne parlant que du colonialisme français, la France a bien colonisé d'autres contrées de par le monde avant 1830, mais cet aspect doctrinal, cet aspect réflexion n'est apparu comme une nécessité qu'après le début de la colonisation de l'Algérie en 1830. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'Algérie étant considérée depuis pas mal de temps, c'est-à-dire avant 1830, comme étant l'autre rivage de la Méditerranée, et donc comme pays qui pourrait apporter ou accroître une puissance, et donc il fallait absolument le conquérir, le transformer, et en faire quelque chose qui soit dans le même sillage ou dans le même cadre que ce qu'il y a au nord de cette Méditerranée. C'est dans ce contexte-là que va agir l'administration coloniale, sous ses deux aspects militaires et civils, et elle va essaimer, installer toute une communauté dont le seul objectif, c'est d'assurer une présence et d'assurer une domination. Or, cette domination a besoin, sur un plan psychologique, sans parler d'autres aspects, sur un plan psychologique, a besoin d'un certain nombre de complexes, de comportements, qui font que l'Algérie n'aura plus une seule société. Ce sera un pays où deux sociétés vont cohabiter, après la période dure et rude de destruction et de massacre collectif, viendra naturellement cette période de cohabitation. Cette période de cohabitation va voir l'émergence d'une société dominante qui dominera une autre société qui est la société dominée. Mais sur le plan psychologique, il faut qu'il y ait des ingrédients qui permettent à l'élément colonial de montrer sa supériorité. Alors, ce sera le mode de vie, ce sera l'instruction, ce sera le comportement quotidien, et ce sera surtout la façon de penser. Les moyens qui étaient utilisés, que permettait le temps, n'étaient pas aussi sophistiqués que ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc les communautés, quand elles sont implantées à travers le territoire, n'ont pas énormément de contacts entre elles. Alors il faut bien qu'il y ait des idées conductrices qui soient, j'allais dire, uniformes. Ces idées-là, on les retrouve ou on les puise dans un certain patrimoine culturel commun. Ce patrimoine culturel commun, surtout dans sa partie religieuse, par exemple, dans sa partie instruction, et dans la façon de regarder les autres. C'est ainsi que naîtra ce complexe de supériorité. C'est ainsi également que naîtra cette tendance à s'accaparer, à conquérir, à prendre ce qui ne nous appartient pas, et donc à amoindrir l'autre acteur qui devient sujet, qui devient, j'allais presque dire, simple spectateur, subissant uniquement cette domination dans tous les aspects de la vie courante.
Al-Majid Chéri, justement, le premier acte de puissance qui a été exercé contre la communauté algérienne, la communauté autochtone, c'est d'avoir subi une invasion militaire. Il y a eu une défaite militaire, un écrasement militaire. Puis par la suite, va être géré l'ensemble de ces victoires. Un ennemi arrive, conquiert une terre et s'y installe. Le mode d'installation est certes connu. Le rapport maintenant qui a été établi avec la population autochtone est recensé. Vous aviez vous-même développé très longuement, et c'est une de vos réflexions, de dire que c'était des communautés ou c'était des sociétés qui vivaient superposées, en couches stratifiées, donc avec très peu points de contact, points d'échange, entre très peu de points de relation. Les seuls points de relation, vous le dites vous-même, ce sont des points de dominant à dominer.
À dominer, oui, exactement.
Avec tous les effets idéologiques, de la pensée, etc. Mais arrive certainement le moment où est-ce que la communauté dominante, pour adoucir son existence sur cette terre, forcément, a eu pour objectif, certainement, je vous pose la question, pour objectif de désamorcer le phénomène du rapport guerrier, étant entendu que la guerre était terminée, l'acte guerrier était terminé. Nous sommes en période de pacification. Alors, la pacification entreprise par la puissance coloniale peut être envisagée comme étant le pont qu'eux ont choisi, et à travers quel moyen d'expression peut-être, ou quelle activité ont-ils essayé d'introduire ces éléments pacificateurs, ces éléments de rencontre, pourrait-on dire, entre guillemets.
Bien, le fait, les quelques éléments que vous venez de donner ne sont pas nés spontanément, comme vous venez de le dire. Il y a eu défaite militaire. Donc, la défaite militaire s'est produite en un temps. Donc il y a durée. Après cette durée, il fallait asseoir une façon de voir l'autre. Comment l'accepter dans son environnement, tout en lui gardant cette situation de dominer. Cette situation également ne s'est pas faite spontanément. Elle a commencé en réalité à partir de 1830, c'est-à-dire à partir du moment où les premières armées ont touché le sol de l'Algérie. Mais il fallait créer il fallait tisser toute une trame de liaison entre ces communautés étrangères, ces corps étrangers qui ont été greffés sur le corps de l'Algérie, et cette trame comprend, à mon avis, certains moyens essentiels. Il y a d'abord l'école. Et comme chacun sait, la création d'écoles en Algérie a commencé en 1834. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était les sociétés savantes. Sociétés savantes qui se sont créées pour étudier l'Algérie. Et ces sociétés savantes avaient utilisé un moyen très subtil, très efficace, qui était d'avoir des correspondants partout où l'administration française s'est installée. Si nous considérons, par exemple, le temps qui s'est écoulé entre le moment de la chute d'Alger et le moment de la chute de la Rouate, par exemple, ou de Ain Salah, qui s'est faite beaucoup plus tard. Il y a à peu près une trentaine d'années. En 30 ans, ces sociétés ont réussi à avoir des correspondants partout où l'administration, soit civile, soit militaire, s'est installée. Ces correspondants constituent une chaîne. C'est une chaîne d'amitié, appelée la chaîne d'amitié, chaîne intellectuelle, qui, sans avoir de points communs idéologiques bien précis, travaillaient à élaborer inconsciemment, à élaborer toute une doctrine, puisque l'objet de ces sociétés savantes, il y avait la société de géographie, il y avait la société historique, elles ont joué un très grand rôle. D'abord, en essayant de faire la jonction, par exemple, entre la période romaine et la période française, pour essayer de sauter, d'effacer, de faire oublier des pans entiers de l'histoire. Ce qui donne une certaine continuité. Et puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on puise dans le même patrimoine, ce patrimoine qui est la culture judéo-chrétienne, donc on avait besoin que de fils conducteurs. Ces fils conducteurs sont donnés par les objectifs politiques, militaires et sociaux de la colonisation.
Est-ce que, Abdelmajid Chihri, tout ce travail qui a été fait consciemment ou inconsciemment...
En passant, c'était un travail scientifiquement acceptable.
Je ne remets pas absolument pas acceptable, je ne remets pas en cause, mais simplement, est-ce que, Abdelmajid Chihri, tout ce travail-là n'est pas fait pour deux raisons. Un, se convaincre et convaincre l'autre que le retour à la guerre est un acte impossible. Nous sommes suffisamment dominants pour ne plus faire la guerre, et vous êtes suffisamment dominés pour ne plus prétendre à l'art. À l'art, oui, certainement, mais à la volonté d'avoir recours à la guerre pour accéder à la liberté, pour accéder à la souveraineté et tout ce que nous avons aujourd'hui.
Oui. C'était également convaincre l'autre de d'avoir à espérer, puisqu'on lui faisait miroiter, on faisait miroiter à tout moment les bienfaits de la civilisation que la colonisation a apporté. Alors, en disant, vous êtes pour l'instant réduit, vous êtes dominé, mais voyez comment nous vivons. Eh bien, si vous êtes pacifique, si vous apprenez à vivre comme nous, vous pourrez avoir accès. Donc ça, c'est faire miroiter tout simplement pour, disons, dans un dessin de sécurité, si on veut. Donc convaincre les autres de ne plus avoir à faire la guerre parce qu'ils sont dominés. Et puis on leur fait espérer. On leur fait espérer un monde meilleur. Donc, ces sociétés savantes qui ont travaillé, elles ont décortiqué la société algérienne, décortiqué son histoire. Et elles ont réussi à faire, à montrer, parce que là, le travail qui a été fait n'était pas à la portée du peuple algérien. Le peuple algérien ne savait absolument rien de ce qui se faisait. D'abord, il ne connaissait pas la langue, il n'était pas suffisamment instruit dans cette langue pour pouvoir connaître ces travaux. Donc c'était un cercle fermé. C'est pour ça que je dis qu'il y a société fermée, société juxtaposée à une autre société qui, elle, vaquait à ses occupations sans se soucier, sans avoir à réfléchir, à penser de ce qui se préparait. Tout ce travail-là, même si peut-être pour beaucoup d'acteurs, pour beaucoup de correspondants de ces sociétés savantes, était un travail scientifique. Mais il a été utilisé par d'autres par certains qui faisaient partie de ces sociétés, mais surtout par d'autres qui ont été utilisés politiquement pour réfléchir et élaborer à ce moment-là toute une doctrine qu'on peut appeler la doctrine coloniale.
Alors justement, Abdelmadjid Chiri, nous avons donc plusieurs étapes, l'étape militaire, ensuite l'étape de pacification, l'étape d'intérêt purement scientifique, l'étape d'élaboration de théories scientifiques, ou du moins dont la démarche se voulait scientifique.
C'est avec... une démarche qui tendait à faire connaître à cet élément étranger qui vient dans un pays étranger, à lui faire connaître le pays dans lequel il est.
Autre étape, le politique se saisit de ses travaux, les utilise à sa manière, et comment, justement, maintenant que c'est au niveau politique, comment cette vision qu'ont à ce moment-là les politiques, comment elle va-t-elle transparaître et de nouveau revenir vers le bas, vers la société, quelle qu'elle soit. Là, c'était une société à caractère colonial.
Alors, ceci va transparaître dans les méthodes de gestion de l'administration. Cela va transparaître dans les règlements et lois qui vont être élaborés. Cela va transparaître également dans les visions, c'est-à-dire les plans qu'établit l'administration pour développer la colonisation. En partant du travail de ces sociétés, qui donnent, disons, un compte-rendu ou un cliché de ce qu'est la société traditionnelle algérienne, sur cette base-là, Mais il va y avoir aussi un autre aspect qui va permettre à cette communauté étrangère d'avoir à tisser d'autres liens. On va avoir recours à la presse. Et là, je voulais justement arriver à ce moyen qui est dans l'histoire de l'Algérie, qui est un phénomène qui est apparu très tôt en Algérie. L'Algérie est parmi les premiers pays du tiers-monde à avoir connu la presse. Bon, cette presse n'est pas une presse algérienne, mais elle nous donne un avant-goût de ce que peut être une presse, puisque cette presse va évoluer et va appeler une autre presse à apparaître. Donc, ce moyen de contact est très important dans l'histoire de l'Algérie, aussi bien pour la colonisation que pour le peuple algérien par la suite. Nous lui consacrerons nos chroniques prochaines, Inch'Allah, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant et je pense que nous pourrons aborder ce problème-là sous différents angles.
Eh bien, Abdelmadjid Chiri, nous vous remercions, nous vous donnons donc rendez-vous et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs mercredi prochain, toujours à la même heure, aux environs de 22h45, juste après le dernier journal de la 3. Et effectivement, nous aborderons le thème du journalisme dans l'Algérie coloniale et peut-être aller au-delà, voir un petit peu qu'est-ce qui se fait de nos jours et voir un petit peu comment la presse a évolué.
On pourrait faire des projections. On peut faire des projections entre le passé et le présent et peut-être l'avenir.
Je vous remercie, Abdelmadjid Chiri.
Je vous remercie.
Merci de nous avoir prêté attention. Bonne fin de soirée.